jeudi à tous pour la chronique environnement. Aujourd'hui, c'est Caroline Collin qui est responsable des communications du Cobali. Salut Caroline!
Salut Audrey.
Et aujourd'hui, eh bien, Cobali, qui est un organisme sans but lucratif qui travaille à la gestion intégrée de l'eau, notamment dans le bassin qui verse de la versant de la Lièvre. Alors, ça, vous le savez, parce qu'on commence à être habitué à te rencontrer, Caroline, mais aujourd'hui, tu vas nous parler des espèces exotiques envahissantes. Qu'est-ce que c'est au juste?
Ben, dans le fond, ça peut être une plante, un animal ou encore un micro-organisme qui provient d'ailleurs dans le monde et puis qui, après avoir été introduit par les humains, que ce soit volontairement ou pas, à l'extérieur de son aire de répartition naturelle, va s'établir et se propager à tel point que ça devient vraiment une menace environnementale et socio-économique. À titre d'exemple, ben, on pourrait à la limite penser au coronavirus qui cause la pandémie actuelle. Ou encore, il y a aussi une plante aquatique envahissante dont on entend beaucoup parler chez nous depuis quelques années. Est-ce que tu sais à quoi je fais référence ici?
Ben, j'étais pas très sûre. Et puis là, myriophile. C'est-tu
ça?
Oui,
le myriophile aipi. Oui.
Myriophile aipi, OK.
Ouais. Écoute, ce que les médias, dans le fond, ont nommé la plante zombie est présent notamment dans le lac Saint-Paul, le lac des Îles, le lac Gauvin aussi, le lac des Sources à Mont-Laurier, pour nommer que ceux-là, parce qu'en fait, dans le bassin versant de la rivière du Lièvre, il y en a pas moins de 20 lacs qui sont touchés par le myriophile aipi, dont la majorité se situe sur le territoire de la MRC Antoine-Annel. Cette plante-là, qui est originaire d'Eurasie, aurait été introduite en Amérique du Nord dans les années 1940, probablement par des navires ou encore parce qu'on s'en servait comme plante d'aquarium. C'est une plante aquatique qui est vivace et puis qui est submergée, donc c'est-à-dire qui est entièrement dans l'eau. Elle a la forme, dans le fond, d'une longue tige et puis elle va remonter jusqu'à la surface pour venir former un épais tapis avec ses feuilles qui ressemblent un peu à des plumes.
Mais le pire, c'est que quand tu as dit plante zombie, tu vois, là, ça me disait plus quelque chose que...
C'est pour ça qu'on a donné ce nom-là aussi. En fait, c'est pas nous, les biologistes ou le Cobali qui a nommé ce nom-là, mais c'est vraiment au niveau des médias. Puis c'est vrai que ça représente quand même... ça donne une image à cette plante-là.
Ben oui, puis en quoi cette espèce-là est peut-être envahissante ou une menace pour l'environnement?
Bien, en fait, premièrement, le problème, c'est que le myriophile aipi se propage très rapidement et très facilement aussi. Hein. Un seul petit fragment, là, aussi petit qu'un centimètre, peut produire une nouvelle plante. Donc, ensuite, la plante va former, comme je le disais tantôt, un épais tapis végétal à la surface de l'eau, ce qui va nuire bien souvent à la croissance des autres espèces végétales indigènes du plan d'eau, c'est-à-dire les plantes qu'on va retrouver naturellement dans le plan d'eau. Bref, ça prend toute la place et ça vient donc chambouler l'écosystème du lac ou du moins d'une partie de celui-ci. Puis, les impacts se font sentir aussi du côté des poissons parce que ça vient changer leur habitat. Le myriophile aipi peut venir modifier la quantité de lumière, justement, quand on parle de l'épais tapis, là, mm-hmm. Ça vient modifier la quantité de lumière qui rentre dans l'eau. La température de l'eau aussi, la circulation de celle-ci, la concentration en oxygène, en phosphore. Puis là, ben, y en a d'autres aussi, mais pour donner une idée.
Oui,
là,
c'est ça.
Puis ça, ben, ça va nuire à certaines espèces de poissons qui sont plus sensibles au changement. On peut penser, entre autres, au touladi, qu'on appelle aussi la truite grise. Par exemple, au niveau des sites de frais, donc là où le poisson se reproduit. Alors, c'est sûr que pour les pêcheurs, ben, ça peut équivaloir à moins de prises ou du moins ben, des poissons qui mordent et qu'on ne voudrait pas nécessairement qu'ils mordent à l'hameçon, ce qu'on préfère.
Oui, c'est ça.
Puis enfin, ben ceux et celles qui ont déjà vu des massifs de myriophile aipi dans un lac le savent, c'est vraiment pas tentant d'aller s'y baigner.
Oh non, hein?
Alors, non, pas du tout. Alors, il faut en plus éviter d'aller naviguer dans les secteurs affectés afin de réduire là, les risques de propagation. Donc, ça limite aussi au niveau de la navigation. Alors, c'est sûr que sur le plan écotouristique, pour une région dont l'économie repose beaucoup sur ça, ça peut avoir des conséquences assez importantes. Et puis ça, ben, c'est sans parler de la valeur des propriétés riveraines aussi.
Et est-ce qu'il y en aurait d'autres espèces exotiques comme ça envahissantes dans la région?
Malheureusement, oui. Oh. Il y a l'écrevisse à taches rouges qui a été découverte dans le Grand Lac du Cerf l'an dernier. Il y a aussi la vivipare orientale. C'est un nom qui peut paraître bien agréable, mais bon.
Ça ne l'est pas du tout.
Non, c'est ça. Dans le fond, c'est un escargot là, qui est vraiment de grande taille et qui est originaire d'Asie. Et puis, ça a été identifié en grand nombre dans le lac du Cerf. Excusez-moi, pas dans le lac du Cerf, dans le lac des Écorces en 2015. Puis aussi là, dans un petit lac à proximité qui est le petit lac Limoges. Mais il y a aussi d'autres espèces dont la présence est confirmée dans des lacs ou des rivières près de chez nous. C'est le cas, par exemple, de l'hydrocaride grenouillette et la châtaigne d'eau du côté des végétaux.
Oui.
Par rapport à la faune, du côté de la faune, donc il y a la moule zébrée et le cladocère épineux qui dans la famille des zooplanctons. Donc, c'est des noms qu'on n'entend pas nécessairement beaucoup parler chez nous actuellement, mais malheureusement, on risque d'en entendre plus parler éventuellement là, dans le futur.
Ah, OK.
Parce que les risques sont assez grands qu'elles se rendent donc jusqu'ici, que ce soit avec ou sans notre aide. Et jusqu'à maintenant, j'ai parlé des espèces envahissantes aquatiques seulement, parce qu'évidemment, au Cobalie, on travaille surtout au niveau de l'eau. Mais il y a aussi des espèces envahissantes terrestres. On peut penser, entre autres, aux roseaux communs ou encore à la grille du frêne au niveau des arbres. Puis si bien, dans le fond, que le Fonds mondial pour la nature considère, au niveau planétaire, là, que l'introduction puis la prolifération des espèces exotiques envahissantes, bien, c'est un des 5 grands facteurs responsables de la dégradation de la biodiversité et des écosystèmes.
Ah, pourquoi?
Bien, parce que généralement, les espèces exotiques envahissantes, bien, ils ont un taux de reproduction élevé. Bref, elles peuvent se multiplier facilement, rapidement aussi. Elles peuvent aussi s'adapter puis se développer dans des environnements variés puis où il y a peu de prédateurs pour ces nouvelles espèces-là qui arrivent là, dans un milieu. Bien, tout ça fait finalement en sorte qu'elles vont compétitionner vraiment bien, en fait trop bien, contre les espèces indigènes. Puis ça devient compliqué et très coûteux aussi, puis parfois même impossible d'éviter ensuite la prolifération de ces espèces-là une fois qu'elles sont introduites dans un nouveau milieu.
Et comment ces plantes-là, ces animaux qui sont venus d'ailleurs, ils ont réussi à venir par chez nous?
Bien, malheureusement, la plupart des espèces exotiques envahissantes sont introduites en raison des activités humaines.
Ah bon, c'est encore de notre faute.
Et oui. Par exemple, la navigation de plaisance, l'aquariophilie, c'est un mot peut-être qu'on n'entend pas beaucoup, mais dans le fond, c'est simplement le fait de posséder un aquarium à la maison là, avec des plantes, des poissons exotiques. L'horticulture aussi, la pêche sportive, l'aquaculture, le commerce international, le transport maritime,
tout ce qu'on fait par les humains.
Oui, tout ce qui implique du transport aussi.
Et qu'est-ce qu'on pourrait faire, nous, Caroline, pour lutter contre les espèces exotiques?
Bien, on est à la fois une des causes, mais on peut faire aussi partie de la solution. Hein. Alors, c'est certain que nos pratiques de navigation, entre autres, là, c'est super important dans ce combat-là. À commencer par le lavage efficace de notre embarcation avant de changer de plan d'eau. Donc ça aide vraiment beaucoup à diminuer le risque de propagation. D'ailleurs, pour ceux et celles que ça intéresse, là, au Cobalie, on a produit l'été dernier une petite capsule sur le myriophile IP, puis la façon justement de faire le nettoyage efficace de nos embarcations. Donc, c'est disponible sur notre page Facebook ou notre chaîne YouTube. Aussi, lorsqu'on reconnaît une espèce exotique envahissante, ben on peut la signaler sur le site web Sentinel. Donc, c'est un site qui est hébergé là sur le site web du gouvernement du Québec.
OK.
Du ministère de l'Environnement du Québec.
Ah, OK.
Donc, ça, c'est quelque chose d'intéressant aussi, parce qu'une fois qu'on sait qu'il y a une nouvelle espèce exotique envahissante, ben on peut prendre des mesures aussi pour davantage le limiter les risques de propagation. Ensuite, si on est un riverain, ben on peut aussi s'impliquer dans notre association de lacs parce que souvent, ces regroupements bénévoles-là vont mener différentes actions pour lutter contre les espèces exotiques envahissantes puis sensibiliser les utilisateurs des plans d'eau aussi. Je parlais tantôt de ceux qui possèdent un aquarium à la maison. Ben si on fait partie de ceux-là, c'est important de ne pas remettre en liberté les poissons, les tortues, peu importe là, autant les animaux que les plantes de ces aquariums-là dans la nature. Parce que même si c'est un geste qui est rempli de bonne volonté, hein, surtout pour ce qui est des animaux, en fait, là, mais ça peut vraiment être destructeur pour la faune et la flore de chez nous. Puis en terminant, ben j'aimerais dire cette phrase qui est de la présidente du comité du développement durable de la MRC, Memphrey Maga, Lisette Maillé. Si les lacs appartiennent à tous, alors tout le monde doit en prendre soin. Je trouve que ça reflète bien nos droits en tant que Québécois, c'est-à-dire que oui, la ressource eau est une ressource collective, mais la protection doit aussi être collective.
Ben, c'est tellement une belle phrase que ça va se terminer comme ça, cette chronique-là.
Bon, déjà.
Merci beaucoup, Caroline Collin, qui est responsable des communications du Cobali. On vous invite à aller sur leur page Facebook et leur site Internet. Merci à toi.
Merci, à bientôt.
À bientôt.